RCF.
Suite et fin de notre dialogue sur le vêtement et la tunique dont Dieu couvre chacun d'entre nous, tunique de miséricorde, Anne Lécu, nous avons beaucoup parlé de justement ce recouvrement de l'amour de Dieu. Votre livre « Tu as couvert ma honte » est paru aux éditions du Cerf. Alors le dernier chapitre de ce livre, justement, il est consacré aux œuvres de miséricorde. Les œuvres, c'est un mot qu'on a beaucoup entendu, qu'on entend peut-être moins. Ça veut dire quoi, œuvre de miséricorde?
Une des grandes vertus du texte du pape sur sa bulle sainte d'indiction, c'est précisément de remettre au goût du jour les œuvres de miséricorde. Donc il parle des œuvres de miséricorde corporelles et des œuvres de miséricorde spirituelles. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut se retrousser les manches et y aller. Voilà, c'est pas juste la miséricorde Dieu et moi dans une relation intime séparée du monde, pas du tout. La miséricorde, encore une fois, il faut qu'elle soit entendue et annoncée, et donc elle est annoncée par notre manière d'être.
Vraiment. Alors, est-ce que c'est de l'être ou du faire? Parce que quand on parle d'œuvre, on peut se dire, bah, il faut s'y mettre, il va falloir faire des choses.
Une manière d'être est toujours une manière de faire, sinon elle n'existe pas. Donc, une manière d'être est toujours à condition...
Incarnée, vous voulez
oui,
dire.
Oui, incarnée, enfin... Moi, je ne vois pas de distinction entre manière d'être et manière de faire. En ce sens que notre manière d'être se décline dans des actions.
Alors, vous citez trois grands chapitres là, pour les œuvres de miséricorde. Vous parlez notamment de la discrétion. Qu'est-ce que vous diriez sur cette discrétion? On en a déjà parlé un petit peu.
Alors, c'est vrai que c'est un thème qui m'est cher, parce que peut-être qu'à l'origine de toute cette recherche depuis quelques années, c'est quelque chose autour du secret que j'aimerais creuser. Et ce secret s'enracine, alors je vais faire un détour encore une fois, dans l'histoire du Père Lataste. Le Père Lataste est un dominicain qui est allé prêcher aux femmes détenues en prison au XIXe siècle, en leur annonçant la miséricorde de Dieu. Et en fait, son expérience spirituelle est une expérience de prédication, en ce sens qu'au fur et à mesure où il leur parlait de Marie-Madeleine et de Marie, qui au pied de la croix, pour lui, vivait dans la même innocence dès lors qu'elle regardait vers le Christ, eh bien, au fur et à mesure qu'il leur annonçait cette miséricorde, il voyait les femmes détenues relever le nez et se redresser. Et donc, il voyait la miséricorde prêchée à l'œuvre dans leur vie. Et comme à l'époque, en prison, elles étaient en silence, elles travaillaient, elles étaient gardées par des religieuses qui étaient à Cadillac des Sœurs de la Sagesse, il a eu le culot de leur dire, finalement, vous pouvez parfaitement, au sein même de la détention, vivre comme si vous étiez religieuse. Quelques-unes se sont piquées au jeu, en disant, il est revenu prêcher l'année suivante, et ces femmes sont venues le voir en disant, mais maintenant, nous allons sortir, où est-ce que nous allons? Et donc, il a d'abord été voir des couvents de moniales dominicaines qui n'ont pas tellement accepté la proposition de recevoir d'anciennes détenues en disant « elles vont tacher l'habit ». Et du coup, il a fondé un institut qui sont les Sœurs dominicaines de Béthanie, dans lesquelles peuvent rentrer aussi bien des femmes dont la vie a été malmenée que des femmes qui viennent de très bons milieux, peu importe. Avec cette réserve, et j'en viens à notre sujet, qu'elles ne parlent plus jamais du passé. Donc, un impératif de discrétion sur le passé au nom de ce que Dieu est le Dieu du présent et que le passé n'est plus à ses yeux. Bon. Et il me semble que la discrétion aujourd'hui, c'est une vertu à réhabiliter, d'autant plus que nous sommes beaucoup dans le règne de la transparence, où il faudrait absolument tout voir, tout savoir des autres. Alors que peut-être la discrétion nous permet de jeter un voile sur hier et donc de recommencer à neuf aujourd'hui, de repartir à neuf aujourd'hui. Et peut-être que repartir à neuf, c'est la règle numéro un de la vie spirituelle, en fait. Ce que j'ai raté hier, eh ben, c'est hier. Ok, c'est raté. C'est vraiment raté. N'empêche qu'aujourd'hui est neuf.
Quand vous parlez de discrétion, je pensais à Jésus. Dans pas mal de ses rencontres, il y va justement avec beaucoup de pudeur, beaucoup de retenue. Enfin, je pensais notamment à la femme adultère. Il regarde le sol, il ne la regarde pas frontalement. Il y a une espèce de retrait, une espèce de séparation, comme s'il s'extrayait un petit peu de cette agitation pour garder un peu le recul.
Tout à fait. Alors, la femme adultère, c'est un bon exemple, parce que d'abord, il va lui dire « moi non plus, je ne te condamne pas ». Et puis je me disais récemment, en regardant les autres personnages de cette scène, notamment ceux qui sont là pour la lapider et qui s'en vont, à commencer par les plus vieux, que peut-être ils se jugent eux-mêmes en partant. Et que peut-être s'ils étaient restés, enfin Jésus leur demande pas de partir, il leur demande de la lapider s'ils se sentent en état de le faire. Bon, s'ils étaient restés, peut-être ils auraient entendu eux aussi pour eux-mêmes, moi non plus je ne te condamne pas. Peut-être que c'était aussi adressé à eux et qu'ils ne l'ont pas entendu parce qu'ils sont partis, parce qu'ils se sont jugés eux-mêmes. Donc il me semble que la miséricorde de Dieu, encore une fois, elle est pour tout le monde, pour tout le monde.
Anne Lécu, le jugement, on en parlait, on va continuer à en parler, parce que souvent on peut juger soi-même, mon action ne vaut rien, ou alors elle vaut beaucoup, ou alors juger pour l'autre, et vous dites justement que c'est pas de notre sort de juger, et là ça fait partie aussi de votre chapitre là sur les œuvres de miséricorde.
Oui, alors il me semble que, encore une fois, le jugement n'appartient qu'à Dieu. Et que peut-être la seule chose que nous ayons à faire, c'est nous présenter devant lui avec tout ce que nous sommes, ce qui nous paraît bien, ce qui nous paraît pas bien, et le laisser, par pitié, le laisser faire le tri, lui. Parce que sans doute, si c'est lui qui fait le tri, et tri, il y a, je pense, dans nos actions quotidiennes, enfin, il y a, tout ne se vaut pas, évidemment. Mais si c'est lui qui fait le tri, c'est sans doute, on a plus de chances de... Peut-être nous, on jetterait des choses qui sont bonnes à ses yeux et peut-être on garderait des choses qui ne sont pas tout à fait à la hauteur.
C'est pour ça qu'il dit qu'il faut laisser pousser l'ivraie et le bon grain en même temps.
C'est certainement pour ça qu'il dit qu'il faut laisser pousser l'ivraie et le bon grain. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il dit, dans un passage un peu compliqué du chapitre 3 de Saint Jean, « Celui qui fait la vérité vient à la lumière, alors que celui qui fait le mal ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient jugées mauvaises. » Et donc, la peur du jugement sur les œuvres nous fait faire le mal, dit carrément Jean. Hein. Donc, le mal n'est pas dans l'œuvre mauvaise, mais dans le refus de présenter les œuvres à Dieu telles qu'elles sont pour le laisser lui en juger.
Puisqu'on parle du jugement, d'ailleurs vous en parlez dans le livre, il y a des paraboles connues sur le jugement de Dieu. On connaît les brebis d'un côté, les boucs de l'autre, Matthieu 25. Qu'est-ce que vous diriez sur ce jugement de Dieu ?
Moi je pense que c'est toujours un jugement sur des actes et jamais sur des personnes. Et qu'on retrouve ça partout. Donc effectivement, que nos œuvres ne soient pas égales les unes aux autres, c'est très clair. Mais encore une fois, c'est à Dieu d'en juger. Ce n'est pas moi qui vais de moi-même ni juger l'œuvre de l'autre, ni la mienne. Alors l'objection, à mon avis, elle est sur la correction fraternelle, encore une fois. Si je suis témoin de ce que quelqu'un fait du mal à un tiers, j'ai le devoir, pas d'abord de le dénoncer, mais d'aller le voir pour le corriger. La correction fraternelle, c'est ça.
Et c'est pas du jugement, ça.
Et c'est pas du jugement. Mais en revanche, s'il n'entend pas et qu'il y a un tiers qui est en jeu et qui est en danger, là, la situation est autre. Mais il me semble que dénoncer un acte, ce n'est pas tout à fait la même chose que d'accuser une personne. Et là aussi, il faut qu'on soit prudent. Je pense que, prenons des sujets d'actualité qui sont très compliqués, sur la pédophilie par exemple, parce que c'est tout le temps là l'objection qu'on me fait sur ce texte, une objection que j'entends. Dénoncer un acte pédophile est un devoir parce qu'il y a une victime, ce n'est pas pareil que d'afficher sur un site internet de quelqu'un qui a été jugé, condamné, qui est libéré, comme on le fait désormais aux États-Unis et peut-être ailleurs, ne passez pas dans la rue, dans telle rue, parce que vit dans cette rue un homme qui a déjà commis des actes pédophiles et donc qui est pédophile. Donc là, on est dans tout à fait autre chose. Et je pense que d'accuser la personne, même des années après, une fois qu'elle a été jugée, condamnée, n'est pas la même chose que dénoncer un acte dans lequel un tiers ou une personne vulnérable ou quelqu'un est victime. Ce sont deux choses différentes.
Anne Lécu, pour fermer ces entretiens, j'aimerais qu'on parle de la joie, parce que vous dites que la tunique, c'est aussi une tunique de fête, une tunique de joie. La joie de ne pas être coupable, la joie de finalement être innocent aux yeux de Dieu, elle vient d'où cette joie?
Je pense que la joie, c'est d'abord la joie de Dieu qu'il nous donne. La joie qui est à l'origine de la création. Peut-être que la création naît de la joie de Dieu, en fait. Peut-être que le salut naît de la joie de Dieu. Je ne sais plus très bien maintenant si le salut vient de la joie ou la joie du salut, mais peut-être que le salut, le désir de Dieu de nous sauver, vient de sa joie qu'il veut transmettre. Et donc, peut-être que ce qu'il reste quand nous vivons en Dieu, c'est la joie. Et toutes les paraboles qui nous parlent du royaume parlent de banquets, de fêtes. Et ce sont des fêtes fastueuses, avec abondance de biens. Et je pense que c'est une abondance de joie.
On pense à la tunique, justement, du fils qui était parti.
Exactement,
et
le fils qui prodigue, rentre. Qui rentre. Son père l'habille d'une tunique, peut-être qu'il l'habille avec la tunique du Christ, pour qu'il rentre au banquet de noces. Je pense aussi à la tunique dans l'Apocalypse de tous ceux qui sont vêtus d'une robe blanche et dont quelqu'un, une voix dit « Mais qui sont-ils et d'où viennent-ils ? Ils viennent de la grande épreuve, ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau et plus jamais ils ne souffriront ni de la chaleur du soleil et plus jamais il n'y aura de larmes sur leur visage, etc. » Donc il me semble que notre avenir, c'est la joie et peut-être cette joie, nous pouvons la goûter dès aujourd'hui si tant est que la vie en Dieu, ça commence maintenant et pas seulement demain ou après-demain. Et peut-être que la joie, même si nous ne l'éprouvons pas, nous pouvons la donner. Ça, je le crois fermement.
Les derniers mots de votre livre, « Il n'est plus temps de se pencher sur nos erreurs, nos fautes ou nos péchés, chacun les connaît. C'est assez. L'urgence du moment, si nous confessons le Christ, c'est d'annoncer sa miséricorde. »
Et sa joie.
Oui, parce que donc y a un élan de joie là dans ces mots là. C'est-à-dire qu'on se tourne plus vers le passé, mais on accueille la miséricorde et ça nous emmène loin.
Oui, puis je pense que simplement l'évangile est mal connu. Enfin, l'évangile est mal connu par nos contemporains. L'évangile est peut-être même mal connu par nous-mêmes dans l'Église, et que peut-être le premier pas à faire, c'est de redécouvrir cette joie qui est la racine de l'évangile.
Et votre livre nous y aidera. Merci beaucoup, Anne Lécu. Cet ouvrage s'intitule « Tu as couvert ma honte », il est paru au Cerf. Merci à Pierre-Henri Paget à la technique.